3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Le prédateur, également connu sous le nom de Yautja, est une race de chasseurs humanoïdes extraterrestres qui recherchent continuellement des proies exotiques. Ces prédateurs se distinguent physiquement des humains par leur grande taille, leurs mandibules ressemblant à des anthropodes et de longs appendices qui sont insérés dans leur crâne. Leurs corps sont résistants et capables de se remettre de multiples blessures qui seraient normalement mortelles pour les humains. Ils sont beaucoup plus forts et habiles, se déplacent facilement à travers les arbres ou sur des structures et bâtiments à la poursuite de leur proie. Bien qu'ils soient capables de survivre à l'exposition aux températures froides pendant une période prolongée, ces prédateurs ont une préférence pour les climats équatoriaux chauds. Leur régime alimentaire est omnivore, cette créature consommant à la fois de la viande et des racines végétales. Une des particularités des Yautja est son sang vert phosphoreux lumineux à base de carbone, un trait qu'il partage avec d'autres créatures qui sont présumées avoir une relation évolutive étroite avec eux, comme leur animal de compagnie, le Predator Hound. Ces chasseurs portent un masque qui aide ces derniers à respirer, en plus de leur permettre d'activer certaines des armes de leur armure. De plus, leur vision se situe naturellement sur une bande passante infrarouge de la lumière, ce qui s'avère être à la fois une force et une faiblesse, ce dernier ne pouvant pas voir sa proie si celle-ci camoufle la chaleur provenant de son corps en se couvrant de boue pendant qu'il est chassé, ou encore que cette dernière se fonde dans une autre source de chaleur. La vision des prédateurs peut être également modifiée ou augmentée avec l'aide de leur casque. La plupart des Yautja consacrent leur vie à la chasse et à la recherche d'adversaires dignes de leur talent et sont surtout connus pour leur système de camouflage qui les rend complètement invisibles, leur permettant de traquer plus facilement leur proie. Lorsqu'ils réussissent à abattre leur chasse, ces extraterrestres prennent généralement un trophée et un prédateur expérimenté aura toute une salle de trophées dans son vaisseau pour les exposer. Donc, amassez votre équipe de combat et préparez-vous à être chassé dans la jungle mexicaine ou rurale, alors que je vous parlerai aujourd'hui de la production des deux premiers films de l'une des plus grandes franchises cultes de la science-fiction, c'est-à-dire Predator.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
The management and staff of this theater wish every one of you a very, very happy Christmas. To a gay, exciting new year.
Hotshot electric in-car heaters have been installed for your comfort and convenience. Just insert heater through car window and turn on the switch. When leaving, please turn switch off and replace on speaker post. Warning, high voltage. For your own safety, do not attempt to repair or remove wires. Do not attempt to open heater unit. If you need assistance, please notify the theater box office or concession manager.
The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime.
Rated X.
Get more out of life. Go out to a movie.
We are a rescue team, not assassins. Now, what do we gotta do?
In a part of the world where there are no rules.
We pick up their trail at the chopper, run them down, grab those hostages before anybody knows we were there.
What do you mean, we?
Deep in the jungle, where nothing that lives is safe.
You lose it here, you're in a world of hurt.
Showtime,
kid.
Knock, knock.
An elite rescue squad.
You're bleeding, man.
I ain't got time to bleed.
Is being led by the ultimate warrior.
We need the best. That's why you're here.
But now...
What's got Billy so spooked?
There's something out there waiting for us. And it ain't no man.
They're up against the ultimate enemy.
Holy Mother of God.
Nothing like it has ever been on Earth before.
She says the jungle just came alive and took him.
We cannot see it.
No blood, no bodies. We hit nothing.
But it sees the heat of our bodies and the heat of our fear.
Whatever it is out there, it killed Hopper. And now it wants us.
It kills for pleasure.
He was skinned alive!
It hunts for sport.
He's killing us one at a time.
We're all gonna die.
But this time, it's picked the wrong man to hunt.
If it bleeds, we can kill it.
Century Fox presents Arnold Schwarzenegger. Predator. The hunt begins Friday, June 12th at theaters everywhere.
Predator, ou Le Prédateur, est un film de science-fiction distribué par la 20th Century Fox le 12 juin 1987. Ce film américain d'une durée de 107 minutes a coûté 18 millions de dollars à produire et amassera plus de 98,3 millions de dollars à travers le monde entier. Au siège du réalisateur, on y retrouve John McTiernan, ce metteur en scène américain qui nous avait donné les films Nomad, Die Hard et The Last Action Hero. Se retrouvera au poste de producteur Lawrence Gordon, ce producteur américain qui avait produit les films The Warrior, Street of Fire et Die Hard 1 et 2. Joel Silver, ce producteur américain qui avait travaillé sur les films 48 Hours, Lethal Weapon 1 à 5 et Demolition Man, ainsi que John Davis, ce producteur américain qui, lui, avait produit les films Gunman, Waterworld, Daylight, iRobot et Predators. Au niveau de la scénarisation, ce sont les frères Jim et John Thomas qui se sont occupés de l'écriture du film, eux qui avaient travaillé sur les films Executive Decision, The Rescue, Predator 2, Mission to Mars et la série télé Tales from the Crypt. Dans la distribution, on y retrouve Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Elpidia Carrillo, Bill Duke, Richard Chavez, Jesse Ventura, Sonny Landham, Shane Black et Kevin Peterhall. Chargé de libérer des otages capturés par des guérillas sud-américains, un major et ses hommes s'aventurent dans la jungle du Mexique où ils sont confrontés à une créature extraterrestre invisible dotée d'une vision thermale. Suite à la sortie du film Rocky IV, une blague circulera à Hollywood selon laquelle Rocky Balboa n'avait plus d'adversaire terrestre et qu'il devrait combattre un extraterrestre si un cinquième film devait être réalisé. Ce sera cette blague qui inspirera les scénaristes Jim et John Thomas, les deux frères, qui vont alors entamer un travail d'écriture sur un scénario intitulé « Hunter ». Le concept original de ce scénario concernait une bande de chasseurs extraterrestres de diverses espèces cherchant à chasser diverses proies. Comme les frères Thomas étaient des scénaristes inconnus à Hollywood, cette œuvre étant leur première création, les deux jeunes hommes auront du mal à attirer l'attention sur leur projet de film. Finalement, ce sera le producteur de la 20th Century Fox, Michael Levy, qui finira par s'y intéresser. Levy apportera alors le scénario au producteur Joel Silver, qui décidera alors de transformer l'histoire en un film à gros budget. Silver embauchera son ancien patron, Lawrence Gordon, comme coproducteur, ainsi que le metteur en scène néo-zélandais Geoff Murphy pour la réalisation du projet. Venant de terminer de travailler avec l'acteur Arnold Schwarzenegger dans le film à succès Commando, sorti en salle en 1985, Silver et Gordon approcheront alors l'acteur autrichien pour le rôle principal. Schwarzenegger avait obtenu la popularité au début des années 1980 avec des films tels que Conan the Barbarian en 82, ainsi que Conan the Destroyer et The Terminator en 1984. Schwarzenegger sera initialement réticent à jouer dans Predator car son personnage était seul face à la créature, ce qui était quelque peu redondant avec ses films précédents. L'acteur exigera alors la réécriture du scénario et c'est à ce moment que le personnage de Dutch fera partie d'une équipe de commando. Après plusieurs réécritures, Schwarzenegger approuvera le script et acceptera alors de signer sur le projet. Malheureusement, ces réécritures forceront le metteur en scène Geoff Murphy de quitter la production, ce dernier se devant de travailler sur son prochain film, Never Say Die. Venant tout juste de voir le drame fantastique à petit budget Nomade, qui avait été mis en scène par le jeune réalisateur du nom de John McTiernan, Schwarzenegger, impressionné par l'ambiance sombre et claustrophobique du film, proposera ce dernier au producteur Joel Silver, qui l'embauchera alors pour la production. Afin de compléter la distribution du groupe de soldats d'élite qui entoureront leur acteur principal, Silver et Gordon, avec l'aide du coproducteur John Davis, chercheront d'autres hommes d'action plus grands que nature. Carl Weathers, qui avait été mémorable dans le rôle du boxeur Apollo Creed dans les films Rocky 1 et 2, sera leur premier choix pour interpréter le personnage de Dylan, tandis que le lutteur professionnel et ancien Navy SEAL Jesse the Body Ventura sera embauché pour son imposant physique. Sonny Landham, Richard Chavez et Bill Duke, qui avaient également joué aux côtés de Schwarzenegger dans Commando, compléteront le groupe. Pour le dernier membre de l'équipe, ce sera le scénariste, acteur et réalisateur Shane Black, qui réalisera en 2018 le quatrième film de la franchise intitulé The Predator, qui sera embauché afin d'effectuer la réécriture du scénario en cas de modification de dernière minute. Ce dernier avait surtout impressionné pour son scénario de Lethal Weapon, long-métrage également produit par Joel Silver. Malheureusement, l'acteur-scénariste refusera de travailler sur le script lors de la production, ce qui expliquera pourquoi son personnage sera le premier à être éliminé par la créature extraterrestre. Alors que Schwarzenegger terminait son tournage du drame policier Raw Deal, ceci permettra au scénariste David Peoples d'effectuer quelques réécritures mineures alors que l'équipe de production travaillait au repérage des lieux de tournage au début de 1986. Ce sera finalement le territoire de la jungle mexicaine situé à moins d'une heure de la route de la ville de Puerto Vallarta qui sera choisi comme emplacement principal. Le tournage devant avoir lieu pendant la saison sèche, il fut décidé d'augmenter l'échelle de la jungle en ajoutant des arbres artificiels de 30 pieds, des rochers artificiels et des vignes. Durant ce temps, les principaux membres de la distribution passeront plus d'un mois et demi à s'entraîner à Los Angeles, en Californie, dans des gymnases, avant de se rendre à Puerto Vallarta, où ils participeront alors à un camp d'entraînement intensif pendant plus d'une semaine qui comprendra une mise en forme complète de l'escalade dans les arbres, l'amélioration du cardio des comédiens, le maniement des armes, ainsi que, bien sûr, de l'haltérophilie. Ce voyage au camp d'entraînement sera un véritable cauchemar pour la plupart des participants, mais une promenade de santé pour Jesse de Body Ventura, qui fut membre d'une équipe de démolition sous-marine de la U.S. Navy de 1970 à 1975. Ce sera durant ce camp que les acteurs apprendront à se déplacer dans la jungle en équipe et à communiquer avec des outils non-verbaux comme des signes manuels. La production débutera donc à Puerto Vallarta le 14 avril 1986, mais sera arrêtée moins de deux semaines plus tard afin de permettre à Schwarzenegger d'épouser Maria Shriver à Yanis Port au Massachusetts. Les jeunes mariés vont par la suite se diriger vers une courte lune de miel de trois jours avant de retourner ensemble sur le plateau de tournage. Ce sera le concepteur des effets spéciaux Richard Edlund, un des fondateurs de la Industrial Light and Magic, qui avait fondé sa compagnie Boss Film Studios en 1983 avec l'aide de contrats pour réaliser les effets spéciaux visuels des films Ghostbusters et 2010, qui sera alors embauché pour réaliser le costume du prédateur. La conception finale de la maquette sera alors acceptée par le réalisateur John McTiernan et le producteur Joel Silver. Cependant, lors de la conception du véritable costume, Edlund allait rapidement se rendre compte que le design, qui avait de l'air spectaculaire sous forme de maquette, était presque impossible à réaliser en tant que costume grandeur nature porté par un acteur. En effet, le costume de plus de 20 000 $ qui donnait l'impression d'une créature disproportionnée et disgracieuse avec de grands yeux jaunes et une tête d'insecte était loin d'être aussi agile que ce qui était nécessaire pour la production. Le costume comprenait trois jambes à l'origine, ce qui empêchait alors l'interprète se trouvant à l'intérieur du costume de pouvoir marcher correctement sans que ce dernier ait l'aide d'un harnais suspendu à des fils montés sur un bras de flèche aérien. Bien sûr, ce genre de harnais était impossible à utiliser dans la jungle mexicaine dense. La troisième jambe sera alors enlevée afin de permettre une meilleure mobilité. Pour ajouter des problèmes, la combinaison avait été spécialement conçue pour l'acteur Jean-Claude Van Damme, qui était alors champion du monde de karaté à cette époque et dont la carrière hollywoodienne allait vraiment débuter en 1988 avec le film Bloodsport. Pour Van Damme, l'acteur n'était pas encore connu aux yeux du public en 1987, ce dernier n'étant apparu que dans différentes productions à titre de figurant, sauf pour le film de 1986 No Retreat, No Surrender, dans lequel il interprétait le personnage antagoniste. Van Damme avait été embauché à l'origine avec l'intention que la star de karaté utilise ses compétences en arts martiaux pour faire du prédateur un chasseur agile, semblable à un ninja. Cependant, Van Damme n'avait aucune idée de ce qui l'attendait sur le plateau de tournage, ce dernier pensant qu'il allait montrer ses capacités d'arts martiaux au monde. Rapidement, l'acteur émettra des réserves sur le fait que le public ne verra pas son visage puisqu'il serait continuellement dans le costume. De plus, Van Damme se plaindra continuellement du fait que le costume du monstre était mal aéré, l'acteur perdant régulièrement connaissance à cause de la chaleur étouffante de la jungle. Il deviendra rapidement évident au réalisateur qu'un acteur plus imposant physiquement était nécessaire pour faire apparaître la créature menaçante contre l'équipe composée de nos héros, Van Damme ne mesurant que 5 pieds 9, alors que le reste du commando, qui incluait des pièces d'hommes telles que Schwarzenegger, Weathers et Ventura, mesurait plus de 6 pieds de haut et connu pour leur régime de musculation. Refusant alors d'effectuer des cascades dans cette combinaison non fonctionnelle, Jean-Claude Van Damme quittera la production après que le cascadeur embauché pour le remplacer dans les scènes d'action se fracturera une jambe durant l'une de ses premières scènes. 20th Century Fox décidera alors d'arrêter la production. Les producteurs se devront alors de chercher une manière de trouver du financement supplémentaire et de convaincre également les studios de ne pas mettre un terme au projet de film. Après avoir présenté un montage approximatif d'environ une heure de séquences tournées, les producteurs obtiendront un financement additionnel pour terminer le film et surtout pour créer une créature plus réaliste et surtout plus menaçante. C'est alors que Schwarzenegger recommandera son ami Stan Winston, qui avait créé les effets spéciaux du film de science-fiction de 1984, The Terminator. Winston acceptera alors le poste et débutera son travail de conception pour la construction du tout nouveau Predator. Ce sera durant un voyage en avion pour se rendre au Japon que Winston sera en compagnie du réalisateur James Cameron et qu'il parlera avec ce dernier de la conception de la créature. Cameron sera alors responsable de l'idée des mandibules. La conception et la création du nouveau costume sera un véritable cauchemar pour l'équipe de Stan Winston Studio, qui devait réaliser les effets spéciaux et les maquillages des films de Monster Squad et de Pumpkinhead en même temps. La production sera alors mise en arrêt complet pendant plus de 6 mois, permettant ainsi à Winston de réaliser son nouveau costume, alors que Schwarzenegger et Jesse Ventura iront travailler sur la production du film The Running Man, qui sortira en salle la même année que Predator. Une fois le costume terminé, Kevin Peter Hall, l'acteur de 7 pieds 2 pouces qui venait de terminer son travail de Sasquatch sur le film Harry and the Anderson, sera alors embauché pour se glisser dans la nouvelle combinaison. Ce sera donc en février 1987 que le tournage reprendra dans le sud du Mexique où la confrontation entre Schwarzenegger et le Prédateur sera tournée. Quelques plans de scènes déjà filmés seront également reprises, mais la majorité des séquences était déjà sur pellicule. D'autres problèmes surviendront alors, mettant de nouveau en péril la production. Tout d'abord, le directeur de la production ne fera pas adéquatement son travail de recherche, l'homme n'ayant aucune idée que les arbres sur place pouvaient perdre leurs feuilles. Ainsi, 2 semaines après le début du tournage, les feuilles commencèrent à tomber des arbres, forçant ainsi l'équipe des effets visuels d'ajouter des tonnes de fausses feuilles aux arbres pour les faire paraître beaucoup plus denses. Du côté de l'acteur Sonny Landham, qui interprétait le personnage du traqueur d'origine amérindienne Billy, l'homme était reconnu pour ses problèmes de comportement, l'acteur ayant la réputation de perdre son sang-froid rapidement et ainsi se retrouver dans des bagarres. De plus, Sonny était un bon vivant qui aimait boire et faire la fête sur le plateau de tournage, à un point tel que la compagnie d'assurance du film exigera qu'un garde du corps soit embauché pour l'acteur, non pas pour sa protection personnelle, mais pour protéger les autres membres de la production de sa personne. Le tournage sera un véritable enfer à cause de l'environnement, de la chaleur, mais également à cause de l'eau et de la nourriture. En effet, les acteurs et membres de l'équipe de production seront bloqués à plus de 20 000 de la civilisation dans une chaleur incessante lorsque ces derniers tomberont gravement malades après avoir bu de l'eau contaminée. Heureusement, Schwarzenegger évitera l'épidémie et réussira à retourner au camp de base en bonne santé, seulement pour consommer de la nourriture douteuse et être victime de sa propre maladie, l'acteur étant alors hospitalisé. Les séquences montrant la vision du prédateur seront également un véritable cauchemar à filmer, l'équipe ayant à l'origine travaillé avec de véritables caméras à vision thermique afin d'obtenir l'effet désiré, mais dû trouver une autre solution parce que la température ambiante de la jungle était à la même température que celle du corps des comédiens, empêchant ceux-ci de se démarquer de l'arrière-plan, la silhouette des acteurs se retrouvant alors parfaitement camouflée avec le décor environnant. L'équipe technique cherchera alors à résoudre le problème en pulvérisant de l'eau glacée sur les arbres et en obligeant les acteurs à se tenir près d'un feu pour monter leur température corporelle afin de filmer. Mais cela ne fonctionnera pas plus. Au final, l'effet sera créé à l'aide d'une combinaison de plans créés avec plusieurs types d'appareils photo et l'utilisation d'effets numériques coûteux. L'argent pour ce dernier n'étant pas dans le budget, le réalisateur John McTiernan dut plaider sa cause auprès des producteurs afin d'obtenir les fonds monétaires nécessaires. Même le sang de la créature extraterrestre deviendra un problème. McTiernan désirait à l'origine que le sang soit de couleur orange, mais ce sera finalement l'un des membres de l'équipe des effets visuels qui suggérera de couper des tubes photoluminescents alors actifs et d'utiliser le liquide activé à l'intérieur à la place. Ainsi naîtra le sang vert fluo du prédateur. Finalement, juste au moment où les choses commençaient à bien aller, McTiernan tombera d'un arbre et se cassera le poignet pendant la chute. De plus, le réalisateur de 35 ans refusera de manger la nourriture locale de peur de tomber malade, perdant plus de 25 livres pendant toute la durée du tournage. Durant la production, surviendra une véritable compétition entre les acteurs afin d'être la personne la plus musclée sur le plateau de tournage. C'est pour cela que Schwarzenegger, Landham, Weathers, Ventura, Chavez et Duke se retrouveront tous les jours au gymnase, et ce, dès 4 heures du matin, avant de se rendre sur les lieux de la production. De plus, Carl Weathers, un ancien joueur de la NFL, était un homme qui faisait très attention à sa santé jusqu'à sa rencontre avec Schwarzenegger, qui, lui, fumait toujours des cigares sur le plateau de tournage et qui lui en proposera un durant la production. Après avoir essayé son tout premier cigare, Weathers deviendra accro et quelques jours plus tard se verra offrir par Schwarzenegger une boîte pleine de cigares, un vice qu'il possède encore aujourd'hui. Une fois le tournage terminé, ce sera au tour du compositeur Alan Silvestri d'entrer en scène. Celui-ci venait de remporter un énorme succès avec la trame sonore du film Back to the Future en 1985 et composera la partition musicale de ce qui allait devenir son tout premier film d'action majeur. Predator devait initialement sortir sur 1200 écrans le 5 juin 1987, mais sera retardé d'une semaine. Le film sera à la tête du box-office américain lors de son week-end d'ouverture avec un montant brut de 12 millions de dollars. Au final, le film rapportera plus de 59 millions de dollars au box-office nord-américain et 38,5 millions de dollars additionnels provenant d'autres pays. Malgré une réaction critique tiède, Predator aura un succès commercial et recevra une nomination aux Oscars pour les meilleurs effets visuels. En 2008, le magazine Empire classera le film Predator 366e sur sa liste des 500 plus grands films de tous les temps. Predator a été également classé 4e dans un sondage des lecteurs du magazine Rolling Stone en 2015 sur les meilleurs films d'action de tous les temps. Jesse The Body Ventura quittera le monde du vedettariat et de la lutte professionnelle pour se lancer en politique en 1991, devenant gouverneur du Minnesota de janvier 1999 jusqu'en janvier 2003. Fait cocasse, Schwarzenegger deviendra gouverneur de la Californie en 2003, poste qu'il conservera jusqu'en janvier 2011. L'acteur Sonny Landham décédera d'une crise cardiaque le 17 août 2017 à l'âge de 76 ans. Du côté de Shane Black, celui-ci écrira et réalisera le 4e film de la franchise Predator, qui sera très mal accueilli par la critique et les fans. Pour l'acteur Kevin Peter Hall, qui interprétera le rôle du Predator, celui-ci décédera le 10 avril 1991, une semaine avant de célébrer son 36e anniversaire. L'acteur avait dû subir une intervention suite à un accident de voiture durant la production de la série télévisée Harry and the Henderson et se verra donner du sang contaminé par le sida. Hal perdra la vie suite à une pneumonie causée par le sida. Du côté du réalisateur John McTiernan, eh bien sa carrière déraillera totalement en 2006 à cause de problèmes juridiques. En effet, ce dernier sera accusé devant un tribunal fédéral d'avoir fait une fausse déclaration à un enquêteur du FBI en février 2006 au sujet de l'embauche d'un enquêteur privé, Anthony Pelicano, pour mettre illégalement sur écoute le producteur de son film Rollerball vers août 2000. McTiernan sera alors condamné à 1 an de prison, 3 ans de probation surveillée et une amende de 100 000 $. Basic, réalisé en 2003 et mettant en vedette John Travolta et Samuel L. Jackson, sera son tout dernier film présenté en salle. Du côté des points forts, eh bien, Predator est un excellent popcorn movie rempli de testostérone pour les amateurs de films d'action qui exploitent sans aucune gêne l'image virile de ses vedettes et ce, sans se soucier de logique ou de vraisemblance, le but de ce long métrage n'existant que pour divertir son auditoire sans trop réfléchir. Le style claustrophobique de McTiernan est ici bien utilisé, notamment à cause de la dense forêt mexicaine où se situe l'action, mais également par le choix du réalisateur de tourner dans un aspect cinématographique de 1,85, ce qui centralise l'action dans un cadre presque carré face à l'habituel cadrage rectangulaire que nous donne le ratio 2,35. La mise en scène est dynamique et l'action continuelle, ne donnant que peu de moments à l'auditoire pour reprendre son souffle. De plus, quelques touches d'humour permettent véritablement aux spectateurs de se divertir, et ce, malgré quelques séquences de violence graphique. Le suspense est également intéressant, McTiernan se servant d'une excellente technique visuelle à l'aide de sa caméra, et le tout est rehaussé par une partition musicale exceptionnelle d'Alan Silvestri. Au niveau des effets spéciaux, ceux-ci sont remarquables pour un film de ce budget, et le costume créé par le maître Stan Winston est tout simplement extraordinaire. Finalement, la confrontation entre Schwarzenegger et le Prédateur est crédible, le réalisateur étant capable de bien diriger son action en nous montrant les limites musculaires de notre héros face à cette créature provenant de l'espace. Mais du côté des points faibles, on a affaire ici à un scénario très mince. On a le droit à une histoire traditionnelle avec des personnages caricaturés à l'extrême et des dialogues véritablement superficiels. Du côté de la distribution, rien d'exceptionnel à souligner. Les muscles parlent plus que les vedettes et Arnold est tout simplement ici Arnold. Au final, il est dommage qu'on n'ait pas eu le temps de se familiariser avec les membres de l'équipe de Dutch, mais c'est peut-être mieux ainsi. Du côté musical, eh bien, c'est, encore une fois, le compositeur Alan Silvestri, ce compositeur américain qui nous a donné les trames sonores des films Back to the Future 1 et 2, The Abyss, Volcano, The Delta Force et Romancing the Stone, qui s'est occupé de réaliser la musique du film Predator. Je vous présente donc le thème de ce long métrage.
Intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed and all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land.
It's intermission time, folks, so hurry, hurry, hurry. Step right over to our refreshment center for the most extravagant array of refreshment goodies ever assembled under one roof. Enjoy breathtaking, mouth-watering goodies, everything from a snack to a delicious full meal. At our refreshment center, you'll find a large variety of goodies to satisfy your hunger, your thirst, or your sweet tooth. So hurry, hurry, hurry. Visit our refreshment center now. And now, on with the show.
Are you ready for the most merry mission of the year, Blitzen? What the...
Sprinkles, get down!
Sprinkles for Prancer! Sprinkles for Prancer! Blitzen's down! I need help!
Sprinkles' call came in from up ahead. Follow me.
Prancer, no!
Looks like someone staying on the naughty list. Larry, light him up!
Ho, 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 you ugly mother.
Larry, you son of a bitch! Sprinkles, you're bleeding.
I ain't got time to bleed. Happy holidays, you filthy animals.
Ho, ho, holy sh...
And now, on with the show.
It landed in the world's most forbidding jungle. It came for the thrill of the hunt. It chose us as its prey because of our intelligence and violent nature. Now, it's coming to a different kind of jungle.
You're dealing with.
This time, it's open season on all of us. Danny Glover, Gary Busey, Ruben Blades, Maria Conchita Alonso, Bill Paxton. Predator 2, hunting season opens again this Christmas.
Predator 2. Ou Le Prédateur 2, est un drame de science-fiction distribué par les studios 20th Century Fox le 21 novembre 1990. Ce film américain d'une durée de 108 minutes a coûté plus de 35 millions de dollars à produire, mais n'amassera que 57,1 millions de dollars au box-office international. Au niveau de la réalisation, on y retrouve le metteur en scène Stephen Hopkins, ce réalisateur américain qui nous a donné les films Blown Away et A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. Au niveau de la production, on y retrouve encore une fois les producteurs Lawrence Gordon, producteur américain qui avait produit les films Point Break, Xanadu et Event Horizon, Joel Silver, ce producteur américain qui avait travaillé sur les films Weird Science, The Last Boy Scout et V for Vendetta, et John Davis, ce producteur américain qui avait travaillé sur les films Alien vs. Predator 1 et 2, Paycheck et Eragon. Au niveau de la scénarisation, c'est encore une fois les frères Thomas, Jim et John, ces deux hommes qui avaient travaillé sur les scénarios de Executive Decision, The Rescue, Predator et Mission to Mars. Au niveau de la distribution, on y retrouve l'acteur Danny Glover, Kevin Peter Hall, Gary Busey, Ruben Blades, Maria Conchita Alonso, Bill Paxton, Lillian Chauvin, Robert Davey, Adam Baldwin, Ken McCord et Steve Cahan. À Los Angeles, en 1997, un policier aux méthodes brutales et son équipe sont confrontés à une créature extraterrestre qui élimine des criminels dangereux de façon fort violente. Amassant tout près de 100 millions de dollars au box-office international, Predator ne sera pas considéré comme un grand succès pour les studios 20th Century Fox, les producteurs n'étant tout simplement pas intéressés à faire une suite. Mais ce sera le succès d'une série limitée de bandes dessinées intitulée Predator Concrete Jungle, qui sera produite par la compagnie Dark Horse Comics en 1989, qui permettra au producteur Joel Silver de convaincre le studio de donner le feu vert à ce second volet. C'est alors que Silver approchera de nouveau les jeunes scénaristes Jim et John Thomas, auteurs du scénario du tout premier film, qui lui présenteront alors 6 idées différentes, dont l'une était de placer la créature dans une jungle urbaine, idée qui plaira grandement à Silver et aux exécutifs de la Fox. 3 semaines seulement seront nécessaires pour développer le script, qui devait alors développer les origines et les motivations de la créature extraterrestre. Silver proposera de nouveau le poste de réalisateur au metteur en scène John McTiernan, qui refusera l'offre, ce dernier préférant travailler sur le long-métrage The Hunt for the Red October, qui mettait en vedette Sean Connery, Sam Neill et Alec Baldwin. Suite à ce refus, Silver invitera alors le réalisateur américain Stephen Hopkins à mettre en scène le long-métrage, ayant été impressionné par son travail sur A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. Lorsque Hopkins rejoindra la production avant la fin de l'écriture du scénario, ce dernier travaillera en étroite collaboration avec les frères Thomas dans la révision du script et sur le storyboard des séquences qu'ils avaient écrites. Plusieurs éléments clés de la série de comics Predator Concrete Jungle seront alors utilisés dans le film, dont l'action devait se dérouler sur la côte est des États-Unis, soit à New York, plus précisément dans Central Park. Malheureusement, le faible budget de production, ainsi que le fait que le film serait tourné en hiver, forcera le jeune réalisateur à se tourner vers la ville de Los Angeles, simplifiant ainsi son travail et les besoins monétaires du tournage. Hopkins avait initialement envisagé l'acteur Patrick Swayze pour jouer aux côtés d'Arnold Schwarzenegger. Malheureusement, Schwarzenegger ne reprendra pas son rôle de Dutch pour le film, ne s'entendant pas sur le montant de son salaire, mais également parce que ce dernier désirait travailler sur le prochain film du réalisateur canadien James Cameron, soit Terminator 2, Judgment Day. Pour Swayze, ce dernier dut se retirer du projet suite à une importante blessure subie sur le tournage du film d'action Roadhouse. Hopkins approchera donc le comédien Steven Seagal, dont le premier film, Above the Law, avait eu un assez bon succès au box-office. Malheureusement, ce dernier avait ses propres idées sur le personnage, voulant le dépeindre comme un psychiatre de la CIA, expert en arts martiaux, forçant ainsi Hopkins à ne pas l'embaucher, désirant que son personnage principal soit un policier tout ce qu'il y a de plus traditionnel, faisant ainsi différent du précédent volet dans lequel le héros était un homme musclé et spécialisé dans les combats. Suite au refus de Schwarzenegger de revenir dans cette suite, Silver fera alors appel à 3 acteurs avec lesquels il avait déjà travaillé sur le film à succès de 1986, Lethal Weapon. Il embauchera donc Danny Glover, Steve Cahan et surtout Gary Busey, dont il s'agissait ici de son tout premier rôle suite à un terrible accident de moto dans lequel l'acteur avait été cliniquement mort durant une courte période avant d'être ramené à la vie. Pour l'actrice Maria Conchita Alonso, cette dernière se joindra à l'équipe de comédiens et suivra une véritable femme détective alors qu'elle se préparait pour son rôle, cette dernière enquêtant alors sur une série de meurtres véritables impliquant la magie noire. La comédienne El Pidia Carrillo, qui interpréta le personnage d'Anna dans le premier film Predator, apparaîtra brièvement sur l'un des écrans vidéo lors d'une scène avec l'acteur Gary Busey. Celle-ci avait également tourné une scène de debriefing qui se situait tout juste après l'action du premier prédateur, mais les séquences seront coupées au montage, ne conservant que la scène apparaissant sur le moniteur. Kevin Peter Hall sera de retour dans le rôle du prédateur, l'acteur étudiant les danses tribales africaines afin d'apporter plus de souplesse à la créature extraterrestre et de lui donner également une personnalité. Du côté de la conception, cette fois-ci, l'équipe de Stan Winston, qui était de retour pour la création des effets spéciaux pour ce second volet, travaillera avec un horaire beaucoup plus normal que les conditions d'urgence du film original. Des changements de conception furent apportés à la créature, tels que des ornements tribaux sur le front, une coloration de la peau plus brillante, ainsi qu'un plus grand nombre de crocs. De plus, avec plus de temps de pré-production, Winston, Hopkins et le concepteur des effets visuels Lawrence G. Paul proposeront une série d'idées et de conceptions pour des armes plus exotiques telles que la lance télescopique, le fusil, le disque intelligent, le filet et plusieurs autres. Le tournage débutera le 20 février et s'achèvera le 18 mai 1990. La production se fera principalement en extérieur et de nuit, ce qui posera un certain nombre de défis aux cinéastes, particulièrement à cause des résidents rancuniers du centre-ville de Los Angeles qui jetteront des sacs d'urine et d'excréments sur les acteurs et l'équipe de production. De plus, des membres de la production découvriront le cadavre d'un homme alors qu'ils effectuaient le nettoyage d'une ruelle en vue du tournage d'une scène. La séquence de l'abattoir prendra environ 4 jours à tourner et sera extrêmement difficile en raison de la quantité d'eau utilisée et de l'éclairage de la séquence. Des respirateurs seront alors nécessaires pendant le tournage en raison des débris et des produits chimiques qui s'étaient remplis à l'intérieur de l'emplacement. Dans la scène dans laquelle le personnage d'Arrigan se bat avec le prédateur dans les rues sombres de Los Angeles, ce dernier coupera un bras au-dessus du coude de la créature. Par la suite, le monstre titulaire devait être vu avec un seul bras. Ce sera pour cette raison que les cinéastes embaucheront le cascadeur et acteur R. David Smith, ce dernier étant né sans bras gauche, juste en dessous du coude. Smith doublera Kevin Peter Hall sur certains des plans larges, tandis que Hall filmera les plans plus rapprochés. Pour la scène où le prédateur voit son bras coupé, Smith était attaché à une machine appelée descendeur qui permettra au cascadeur-acteur de tourner cette séquence qui sera filmée à plus de 13 étages de haut. R. David Smith réalisera la scène en un seul coup. La confrontation décisive dans le vaisseau spatial des prédateurs comprend la première connexion cinématographique avec l'univers de la franchise d'Alien, ce qui amènera à l'éventuel croisement au cinéma entre les deux franchises durant les années 2000. Ce sera une suggestion du réalisateur Stephen Hopkins au maestro des effets spéciaux Stan Winston qui amènera alors à la réalisation de cette scène dans laquelle on peut apercevoir la tête d'un xénomorphe sur le mur de crâne trophée à bord du vaisseau du prédateur. Ce sera cependant la compagnie de comic book Dark Horse Comics qui sera l'instigateur de cette confrontation entre les deux créatures, ayant publié en 1989 un comic intitulé Dark Horse Presents. En effet, ce sera dans les numéros 34, 35 et 36 de ce comic qu'apparaîtra la toute première histoire d'Alien vs. Predator. Cette scène légendaire sera possible car 20th Century Fox possédait les droits cinématographiques des deux franchises. La scène finale nécessitera un certain nombre d'acteurs de taille considérable pour enfiler les costumes des différents prédateurs, ce qui s'avérera la scène la plus dispendieuse à tourner. Danny Glover était à ce moment-là un grand fan des Lakers de Los Angeles et ce dernier réussira à convaincre plusieurs membres de l'équipe de représenter les prédateurs à la fin du film. En guise de respect, le vieux prédateur aux cheveux gris sera interprété par nul autre que Kevin Peter Hall. Vers la fin de la production, l'acteur Ruben Blades était en train de donner une entrevue télévisée en direct à Good Morning America depuis le plateau de tournage lorsque soudainement le metteur en scène Stephen Hopkins marchera devant la caméra et ordonnera à l'acteur de se remettre au travail. L'incident était si embarrassant que Blades et Hopkins durent réaliser une nouvelle entrevue quelques jours plus tard à la demande des hauts dirigeants de la Fox afin de s'excuser de l'incident. Suite au stress du tournage, les acteurs et l'équipe décidèrent de tourner une séquence de danse impromptue sur le vaisseau spatial où la salle principale sera transformée en une véritable piste de danse et où on peut apercevoir l'acteur Danny Glover danser avec des prédateurs. Hopkins n'aura que 4 semaines pour monter son film. Du côté musical, ce sera de nouveau Alan Silvestri qui composera la trame sonore du long-métrage avec l'aide de la Skywalker Symphony Orchestra. Predator 2 sera le tout premier film à tomber victime de la nouvelle catégorie de rating américain NC-17 à cause de sa violence extrême. Il faudra plus de 20 redécoupages du film pour satisfaire la Motion Picture Association. La catégorie NC-17, qui interdit à toute personne en bas de 17 ans de visionner le film en salle, venait depuis seulement 2 mois de remplacer la catégorie X, quelque chose qui, normalement, pouvait signer l'arrêt de mort d'un film au niveau du box-office. Au moment de sa sortie en salle, le film recevra des critiques généralement négatives et obtiendra un début solide d'environ 12,5 millions de dollars sur le continent nord-américain avant de voir ses bénéfices chuter de 53 % durant la deuxième semaine, Predator 2 tombant à plat par la suite avec un box-office nord-américain de seulement 23,1 millions de dollars au cours de ses 19 premiers jours de sortie. Amassant un peu plus que la moitié au niveau international face au box-office du premier volet, cette mauvaise performance dissuadera alors la 20th Century Fox de poursuivre la franchise pour se concentrer beaucoup plus sur le film croisé potentiel d'Alien vs. Predator qui prendra presque plus de 15 ans à produire. Au fil du temps, la performance de Danny Glover, la réalisation et la partition musicale permettra à Predator 2 de devenir un film culte, malgré le fait qu'il sera le long-métrage le moins rentable de la franchise. Après 33 ans, Arnold Schwarzenegger reprendra son rôle de Dutch, pas à l'écran, mais plutôt au niveau de l'univers des jeux vidéo. Intitulé Predator Hunting Grounds, ce jeu vidéo, qui sera développé par la compagnie Ephonic et distribué par Sony Interactive Entertainment, est un jeu de tir en ligne multijoueur où le joueur se retrouve dans les jungles reculées du monde et est en charge d'une équipe de 4 agents d'élite afin de mener à bien des opérations paramilitaires avant qu'un prédateur ne puisse les trouver et les éliminer. En plus de Schwarzenegger, les acteurs et actrices Alice Braga et Jake Busey prêteront également leur voix à leurs personnages respectifs vus dans les films Predators et The Predator. Le jeu sortira le 24 avril 2020 pour Microsoft Windows et PlayStation 4. La version PlayStation 4 de Predator Hunting Grounds sera le 10e jeu de détail le plus vendu au cours de sa première semaine de sortie au Japon, vendant plus de 9172 exemplaires. En préparation pour le 30e anniversaire de Predator 2 en 2020, la compagnie Disney Fox devait rééditer le film dans les cinémas avec un tout nouveau transfert basé sur l'impression des négatifs 70 mm avec un nouveau dégradé de couleur. Hopkins et Peter Levy superviseront alors le travail, mais l'échec au box-office du film de Predator en 2018 annulera la sortie en salle de cette nouvelle réédition. Du côté des points forts, eh bien, le point positif de cette suite est l'action continuelle qui permet à l'auditoire de ne pas s'ennuyer totalement sur ce film dont la magie de la confrontation dans un environnement claustrophobique manque grandement ici. D'ailleurs, le jeune réalisateur de 29 ans se laisse aller dans une débauche d'effets pyrotechniques et exigera un montage très serré, mettant l'accent sur une violence beaucoup plus graphique que dans le premier volet afin de permettre de camoufler la faiblesse du scénario. Du côté du visuel, ce dernier est apocalyptique et est tout de même intéressant, bien que parfois, on a l'impression de regarder un film à petit budget tourné pour une sortie directement sur vidéocassette. Du côté des points faibles, eh bien, le pauvre scénario stéréotypé nous donne ici une histoire sans grande logique où le prédateur n'est plus vraiment un chasseur, mais plutôt une sorte de meurtrier en série qui assassine ses victimes d'une façon gratuite, ce dernier faisant un nettoyage chez les groupes criminels de Los Angeles. Au lieu de s'attaquer à une proie à la fois, le prédateur ici s'attaque à des regroupements, ce qui va à l'encontre de ce que l'on a vu de cette créature jusque-là. La réalisation est assez amateur, tout comme les effets spéciaux qui sont vraiment inégaux ici. Du côté de la distribution, cette dernière fait de l'overacting, la distribution comprenant des gros noms, mais qui sont tout simplement mal utilisés. Au final, Predator 2 est un mauvais mix entre le satirique de Robocop, l'action de Lethal Weapon et l'aspect commando de Aliens. Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur Alan Silvestri qui avait réalisé les musiques des films Young Guns 2, Forrest Gump, Judge Dredd et Van Helsing qui est de retour ici. Je vous fais écouter un extrait de la trame sonore du film Predator 2. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm à l'époque avait coté Predator 5. Aujourd'hui, il est coté 4. Moi, j'y vais avec un 4, bien qu'au niveau du scénario et de la mise en scène au début, là, j'ai arrêté sur un 5, mais le film va se replacer par la suite au niveau de l'action. Donc, j'y vais finalement avec un 4. Au niveau de la régie du cinéma, eh bien, Predator est coté 13 ans indicatif. Moi aussi, j'y vais avec une cote de 14 ans à cause d'une violence qui est quand même graphique. Pour Predator 2, eh bien, le film est coté 6 par Mediafilm. J'y vais également avec un 6. Très mauvais film ici. Probablement le pire de la franchise. Au niveau de l'âge et du contenu, à l'époque, Predator 2 était coté 18 ans. Aujourd'hui, il est coté 13 ans indicatif. Moi aussi, j'y vais avec une cote 14 ans à cause de scènes graphiques. Au niveau de la trame sonore, eh bien, Predator, le premier film, existe en CD ainsi qu'en vinyle. Donc, vous avez le CD qui est sorti en 2003 et qui a été distribué sous l'étiquette Vanares Sarabande. Ce CD sera ressorti de nouveau sous l'étiquette Intrada le 2 août 2010 avant d'être de nouveau réédité par Intrada le 6 mars 2012. Il existe également une version en vinyle de la trame sonore, une édition qui a été distribuée par l'étiquette Real Gun à 1300 exemplaires le 1er septembre 2013. Du côté de Predator 2, eh bien, vous êtes capable d'avoir, bien sûr, encore une fois, la trame sonore sur CD, sur cassette. C'était sorti sous l'étiquette Varese Sarabande le 13 décembre 1990. Puis, vous aurez la Deluxe Edition qui sera sortie sous l'étiquette Varese Sarabande le 1er décembre 2014 à seulement 3000 exemplaires. Au niveau de la distribution en DVD, en Blu-ray disc, eh bien, Predator est disponible en français et en anglais, en DVD, en Blu-ray disc et également en 4K. Cependant, pour avoir le 4K, vous devez vous procurer le coffret Predator 4 Movie Collection, dans lequel comprend tous les films de la saga, soit les quatre, dans les trois formats. Du côté de Predator 2, eh bien, le film est également disponible en DVD, en Blu-ray, en HD également. Et vous pouvez l'avoir, bien sûr, en 4K dans le coffret qui inclut, bien sûr, les quatre films de la saga. Donc, c'est des choses que vous pouvez trouver facilement pour ajouter à votre collection de DVD. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater. We'll be right back.